Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité d'étudier sa parole qui est peut-être inaccessible dans certains endroits encore sur terre. Et ces gens-là parfois croupissent dans des situations qui auraient été facilement débloquées s'ils connaissaient le Seigneur, s'ils connaissaient la parole. Et nous ne devons pas prendre cette grâce en vain, cette grâce de connaître d'avoir les Écritures, de pouvoir parler avec Dieu en lisant sa parole, que nous puissions aller à fond pour que cette parole nous transforme et fasse de nous des serviteurs affermis pour faire avancer le royaume de Dieu sur terre. Donc nous en sommes au psaume 76, que nous allons lire.
Psaume 76, au chef des chantres, avec instrument à cordes. Psaume d'Asaph, cantique. Dieu est connu en Juda, son nom est grand en Israël. Sa tente est à Salem. Et sa demeure à Sion. C'est là qu'il a brisé les flèches, le bouclier, l'épée et les armes de guerre. Tu es plus majestueux, plus puissant que les montagnes des ravisseurs. Ils ont été dépouillés, ces héros pleins de courage. Ils se sont endormis de leur dernier sommeil. Ils n'ont pas su se défendre, tous ces vaillants hommes. À ta menace, Dieu de Jacob. Ils se sont endormis, cavaliers et chevaux. Tu es redoutable, ô toi. Qui peut te résister quand ta colère éclate? Du haut des cieux, tu as proclamé la sentence. La terre effrayée s'est tenue tranquille. Lorsque Dieu s'est levé pour faire justice, pour sauver tous les malheureux de la terre, l'homme te célèbre même dans sa fureur. Quand tu te revêts de tout ton courroux, faites des vœux à l'Éternel, votre Dieu, et accomplissez-les. Que tout ce qui l'environne apporte des dons au Dieu terrible. Il abat l'orgueil des princes. Il est redoutable au roi de la terre.
Amen. Voilà, dans ce psaume, nous lisons la présentation de Dieu comme étant, le Dieu terrible, le Dieu tout-puissant, redoutable. Et on le met en comparaison, en rivalité avec les princes de la terre, les guerriers de la terre. On dit que tous ces gens-là sont rien, ils se sont endormis. Voilà. Donc c'est une exhortation à ce que nous tous, on s'incline devant Dieu. Dieu est grand. Et tout puissant, et personne ne peut faire face à lui et l'emporter. Personne. Vous savez, dans l'être humain, il y a un orgueil profond qui a tendance à le faire entrer en concurrence avec Dieu. C'est pourquoi on nous présente des humains puissants. Et on nous dit, mais tout ça, ça a été rien devant Dieu. Ce n'est pas à lire pour dire, on parle de ces cavaliers et chevaux, les rois qui ont été abattus, il abat l'orgueil des princes, il est redoutable au roi de la terre. Ce n'est pas pour s'arrêter à eux, c'est considérer que tout humain, d'une certaine manière, parfois il se comporte comme un roi, comme quelqu'un qui est fort, comme un rival de Dieu. On nous demande de nous incliner devant Dieu. Nous tous. Vous savez, certaines choses qui sont citées ici, nous les prenons dans la vie comme des événements normaux ou bien des événements cycliques. Ça arrive qu'un président meure, qu'une star meurt. Mais les écrivains de la Bible sont des gens qui ont été inspirés. Inspirés, ça veut dire ils ont reçu le souffle de Dieu. Ils ont reçu la parole de Dieu. Donc du coup, ils ont vu des choses que parfois nous considérons comme des événements de la terre. Eux, ils les ont vus comme venant de la main de Dieu. Ils ont vu la main de Dieu dans ces événements-là que nous, on trouve habituels, normaux. Et ils ont craint Dieu. Ils ont vu qu'en réalité, quand quelqu'un s'élève comme ça au milieu des hommes, eux, ils ont vu clairement que cet homme était en combat contre Dieu. Et ils ont vu aussi Dieu régler son compte. Une fois, on a lu un psaume qui parlait des éclairs, du regard de Dieu qui sortait comme des éclairs, tout ça. Et on avait dit que David a dû faire une vision voyant Dieu ainsi. Et certains écrivains de la Bible ont eu ce genre de vision où ils voient l'action de Dieu dans ce que nous, on peut croire être la vie normale des humains. Et c'est pourquoi ils disent, au verset 7, « À ta menace, Dieu de Jacob, ils se sont endormis, cavaliers et chevaux. » Donc, ils ont eu des révélations montrant comment Dieu en finit avec des êtres orgueilleux, des gens sur des chevaux. Et ils nous disent au verset 8, « Qui peut te résister quand ta colère éclate ? Qui peut te résister ?» C'est un appel à l'humilité générale. Qui peut résister à Dieu ? C'est aussi une consolation pour les enfants de Dieu lorsqu'ils sont malmenés par des dictateurs, malmenés par des gouvernements mafieux. La consolation, c'est de dire, il n'y a rien qui dépasse Dieu. Je vais chercher mon refuge auprès de Dieu. Et en cherchant mon refuge auprès de Dieu, Dieu s'occupera des méchants dictateurs, il s'occupera des méchants assassins, il s'en occupera. Puisque personne ne peut lui résister. L'humilité que Dieu attend de nous est profonde. Hein. Il nous a créés avec une certaine liberté et cette liberté a tendance à nous tromper, à nous amener à chercher à être autonome, comme si on pouvait se suffire à nous-mêmes. C'est une erreur. Dieu attend de nous une humilité sans explication. L'humilité de la liée à la place que nous occupons dans l'univers. Nous occupons une faible place, comme un grain de poussière, même moins que ça. Alors sois grain de poussière. Dieu nous dit, sois ce que tu es. En comparaison avec moi, sois ce que tu es. Ne cherche pas à me résister, ni à rivaliser avec moi. C'est ça l'humilité que Dieu attend de nous. Vous savez, nous, on veut vivre quelle humilité ? L'humilité, j'ai compris, maintenant je m'humilie. Dieu dit, oh non, sois ce que tu es. Tu es moins qu'un grain de poussière dans l'univers, alors sois un grain de poussière. Nous, on veut tirer l'humilité du jugement qu'on peut faire sur Dieu lui-même. Dire, bon, ah oui, là, il était juste. Là, il a bien agi. C'est-à-dire que on se met en juge et puis après, on veut être humble. Mais non, ça ne peut pas marcher. Dieu dit, t'as pas à être juge, que personne n'a à me juger. Vous n'avez qu'à me craindre. Parce que vous êtes rien. Vous êtes des petits. Acceptez, vivez votre place. Vivez votre place. Pourquoi vous voulez jouer à Dieu? C'est ça le péché du départ. Pourquoi vouloir jouer à Dieu, toi qui es si petit? Beaucoup de gens veulent bien comprendre les choses, bien expliquer les choses. Alors là, après, ils s'humilient. Non. Devant Dieu, on s'humilie, c'est tout. Il est grand. Il est écrit verset 13, il abat l'orgueil des princes. Il est redoutable au roi de la terre. Donc si les princes sont rien devant lui, mais qui sommes-nous? Les rois fléchissent devant lui et qui sommes-nous? Alors on nous dit, au lieu de passer de temps à cogiter, à vouloir soupeser Dieu, le scruter, l'examiner, vous cherchez ses erreurs. On nous dit plutôt, au verset 12, « Faites des vœux à l'Éternel, votre Dieu, et accomplissez-les, que tous ceux qui l'environnent apportent des dons au Dieu terrible. » Adorons-le plutôt, c'est ça notre place. Louons-le plutôt, c'est ça notre place. Inclinons-nous devant lui. C'est ça notre place. Vivons notre place. Inclinons-nous. Vous savez, les nouvelles recrues, je ne sais pas comment on les appelle, mais dans l'armée, tu es une nouvelle recrue et tu veux juger le général. Non, on te demande d'être garde à vous quand il passe, c'est tout. Vis ta place. Alors, mais je mesure 2 mètres, lui il mesure que 1 mètre 50, mais c'est lui le général. Vis ta place de nouvelle recrue. Et Dieu nous demande de vivre notre place d'humain et de laisser sa place de Dieu. Combien de fois inconsciemment nous ne cherchons pas comment à nous opposer à lui? En traitant certains versets bibliques de cette manière, ah oui, mais, tu lis un verset, tu dis, mais oui, mais. Donc, quelque part, tu veux mettre en doute. Tu veux te mettre en opposition. Comme j'ai eu un débat par YouTube interposé, mais dans un autre site, pas notre site à nous, avec quelqu'un qui veut démontrer que la Bible est fausse, parce que les écrits égyptiens ne parlent pas de tout ce qui se, de tout ce dont la Bible parle. Je dis, mais tu, voilà les humains, comment ils sont trompés par leur propre orgueil. Leur orgueil est devenu leur piège. Tu as 2 sources et tu choisis une. Mais qui te dit que celle que tu choisis, c'est la bonne? Donc tu es dans l'injustice sans t'en rendre compte, tout ça. Mu par l'orgueil. Les humains veulent faire comme ça avec Dieu. Bien-aimés, résistons à ça. Résistons à cet orgueil-là des humains, je veux dire. Résistons à ça. Ne les laissons pas faire. Montrons que notre Dieu est le plus grand. Ce qu'il a dit est vrai. N'attends pas de bien comprendre, de bien analyser les choses. Non. Il a dit qu'il a fait les cieux et la terre en 7 jours. C'est ce qu'il a dit qui est vrai. Les scientifiques ont beau faire des démonstrations, des milliards comme vous voulez, tiens-toi à ce que Dieu dit. Dieu était là quand tout s'est passé. Tous ces gens-là n'étaient pas là. Restons à notre place. Inclinons-nous devant Dieu. S'incliner devant Dieu, c'est aussi obéir à la parole. On dit, femme, soyez soumise. Incline-toi devant Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais il faut aimer même les gens du nouvel ordre mondial. Il faut s'incliner devant Dieu. Donc c'est aussi accepter sa parole. Tous les petits raisonnements que nous avons dans la tête, qui sont comme des résistances à Dieu, c'est pas bon, c'est pas bon. Il faut s'incliner, il faut au contraire lui amener des objets d'adoration venir dire « Je ne comprends pas tout, mais je sais que tu as raison. Je sais que tu es Dieu. » Voilà. C'est ça notre place. Parce qu'on ne peut rien résoudre, on est petit. Au verset 5, « Tu es plus majestueux, plus puissant que les montagnes des ravisseurs. Ils ont été dépouillés, ces héros pleins de courage. Ils se sont endormis de leur dernier sommeil. » Fidel Castro, il a résisté à 8 présidents américains. Mais Dieu l'a eu par la mort, tout simplement. Tout simplement. Ils se sont endormis, c'est écrit, ils se sont endormis de leur dernier sommeil. Ils n'ont pas su se défendre. Tout simplement. Vous vous imaginez le nombre de coups d'État fomentés par les Américains que cet homme a esquivé. Mais face à Dieu, il n'a pas pu se défendre. Dernier sommeil, tu pars. Tu pars. Il les a eus. Donc, que nous tous, on s'incline devant lui. On est petit. Restons à notre place. Au nom de Jésus. Amen. Psaume 77.
Psaume 77. Au chef des chantres, d'après J'ai du temps, psaume d'Azaph. Ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil. Et dans mon trouble, je ne puis parler. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur. Et mon esprit médite. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il, dans sa colère, retiré sa miséricorde? Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres. Je raconterai tes hauts faits. Ô Dieu, tes voix sont saintes. Quel Dieu est grand comme toi? Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Par ton bras, tu as délivré mon peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Les eaux t'ont vu, ô Dieu. Les eaux t'ont vu. Elles ont tremblé. Les abîmes se sont émus. Les nuages versèrent de l'eau par torrents. Le tonnerre retentit dans les nues. Et tes flèches volèrent de toutes parts. Ton tonnerre éclata dans le tourbillon. Les éclairs illuminèrent le monde. La terre s'émut et trembla. Tu te frayas un chemin par la mer, un sentier par les grandes eaux, et tes traces ne furent plus reconnues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron.
Psaume. Voilà. Le psaume 77, c'est un homme qui est frappé de quoi? Frappé de nostalgie. Il est dans la souffrance par rapport à lui et par rapport à son environnement. Et il a l'impression que Dieu n'agit plus comme avant. Il est frappé de nostalgie. Et tout est résumé par le verset 6. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. C'est quelque chose dont nous tous, nous sommes parfois ou peut-être souvent frappés, la nostalgie de jours heureux où tout semblait couler, où un chant nous faisait tellement du bien quand on l'entendait et aujourd'hui on entend le même chant, ça ne nous fait pas le même effet. cette nostalgie peut, lorsque on continue dans ça, ça peut nuire à notre foi. On doit se réveiller pour dire au verset 2, ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Ça doit nous pousser à la prière. À la prière. Et parce que si on ne prie pas, si on ne réagit pas pour réclamer que Dieu soit le même aujourd'hui comme avant, on va petit à petit changer de doctrine. On va se dire, ben, il faisait ces choses-là avant. Maintenant, il a changé sa façon de faire. C'est nous qui allons décider ça, non? Hébreux 13, 8 est clair. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Le danger de la nostalgie, c'est que lorsque elle n'est pas combattue, elle nous amène à un contentement qui n'est pas bon. Que nous nous contentions par rapport à nous-mêmes, c'est bien. Mais que nous puissions limiter Dieu par contentement, c'est pas bon. Dieu reste tout puissant. Il est toujours glorieux et il peut agir plus fortement qu'avant. Voilà. Donc on ne doit pas être dans une logique de contentement par rapport à Dieu. Par rapport à nous, oui. Pas par rapport à Dieu. Dieu est tout puissant, glorieux. Et il le restera, quelles que soient les époques. Mais c'est vrai que on vit souvent ces périodes-là où on a l'impression que quand on était jeune chrétien, c'était meilleur, c'était bien, c'était agréable. Et quand aussi nos anciens nous racontent certaines histoires, on se dit, ah, vraiment, cette époque-là, quand on lit certains livres, on se dit, vraiment, Dieu avait agi dans tel pays. Et on a l'impression que chez nous, il ne fait pas, il fait pas autant. Et on se lamente. En fait, c'est le cas de ce monsieur. Il se lamente. Il dit, c'est ce qui m'a... Verset 11 aussi, hein, ça va avec le verset 6. Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Bien aimé, ça nous tous, on a fait ces raisonnements-là. Moi, j'ai fait ces raisonnements-là. Où tu te dis, mais Dieu n'agit plus comme avant. Et on se lamente. On dit, mais quand? C'est dans quel verset? Il dit, mais voilà, verset 8. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? C'est vrai, nous tous, on s'est posé ces questions, surtout quand on voit les abominations qui ont cours dans les églises aujourd'hui. On se dit, ah, comment Dieu ne peut pas susciter des vaillants serviteurs qui vont imposer la vérité par la puissance du Saint-Esprit? Dieu nous a-t-il vraiment abandonnés? C'est des lamentations. Dû à la nostalgie. Je dis, mais l'ancienne époque était meilleure. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On se souvient de notre frère Gédéon, c'était la même chose. L'ange lui apparaît et dit, mais l'Éternel est avec toi, vaillant guerrier, vaillant héros. Il dit, mais ah oui, mais si l'Éternel était avec nous, mais regarde, comparons la situation d'aujourd'hui avec tout ce que nos parents nous racontent. Ça n'a rien à voir. Nous sommes dans la désolation. Mais nos parents nous racontent que Dieu a fait des merveilles. Aujourd'hui, nous, on est esclaves des Madianites. Quelle a été la réponse de Dieu? La réponse de Dieu, c'est « Va avec la force que tu as pour libérer ton peuple. » Et quelle est la réponse de Dieu pour nous tous qui nous lamentons? Ah, moi, j'en fais partie. Quelle est la réponse de Dieu? Eh bien, travaille, prie, mets-toi à part pour ta génération. Voilà. Sacrifie-toi pour ta génération. Ce sont les gens qui se lamentent que Dieu veut utiliser aussi. Ah ben Dieu dit, continuez à exprimer votre soif de ma gloire. À celui qui a soif, je donnerai de l'eau de vie. Voilà. C'est à celui qui a soif. Que celui qui a soif vienne. Ça, c'est Jean 7, 37 à 39. Le dernier jour de la fête, c'est écrit. C'était la fête des tabernacles. Jésus dit que celui qui a soif, qu'il vienne. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alors continuons, bien-aimés, à exprimer notre soif par la prière, par les cris, par les jeûnes, par la maturation spirituelle, par la consécration croissante dans les choses de Dieu. Dieu nous surprendra. Le Seigneur dit, dans Luc 18, il dit au verset 8, « Et Dieu n'agira pas-t-il en faveur de ses élus qui crient à lui jour et nuit ?» Et il dit, « Il agira, il nous surprendra. » Continuons à crier, à pleurer, continuons à parler à Dieu, comme ce monsieur parle. Ce qui fait ma souffrance, Seigneur, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. On a l'impression d'avoir affaire à deux dieux. Or, c'est le même Dieu. On doit lui parler, bien-aimé. Et là, la nostalgie le pique. Et il est en train de raconter, en même temps, dans un esprit de louange, mais dans un esprit nostalgique, c'est que Dieu a fait, hein, il dit au verset 13, je raconterai, je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. Ô Dieu, tes voix sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu? Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi le peuple ta puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple. Là, il parle de la sortie d'Égypte. Les eaux t'ont vu, ô Dieu. Les eaux t'ont vu, elles ont tremblé, les eaux de la mer. Les abîmes se sont émus, les nuages versèrent de l'eau par torrent, le tonnerre retentit dans les nues et les flèches volèrent de toutes parts. Ton tonnerre éclata dans le tourbillon, les éclairs illuminèrent le monde. Là, c'est peut-être au temps de Noé. La terre s'émut et trembla. Verset 20, tu te frayas un chemin par la mer, un sentier par les grandes eaux et tes traces ne furent plus reconnues. Ça, c'est en Égypte. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Donc, la personne parle de la gloire de Dieu qu'il a manifestée dans le passé. Moi, je le dis sincèrement à Dieu aujourd'hui encore. Hein. Je dis, mais Seigneur, on nous dit que les païens disent que les miracles que tu as fait du temps de Moïse, ils sont faux parce que il n'y en a plus aujourd'hui. Voilà, moi je dis, Seigneur, on ne peut pas quand même toujours se limiter à dire c'est la parole de Dieu. C'est vrai, c'est la parole de Dieu. Un des moyens aussi que tu montres que c'est toi qui as fait ces choses-là, mais tu refais ça encore. D'une manière ou d'une autre, refais ça. Nous, nous savons que c'est vrai. Mais glorifie ton nom encore devant tout le monde, même si les gens ne vont pas se convertir. Mais Seigneur, tu ne peux pas laisser des gens continuer à critiquer du matin au soir en disant ben, « c'est la preuve, ça ne se fait pas, ça ne se fait plus. » Non. Un des moyens, Seigneur, que tu montres que ta parole est vraie, c'est aussi par l'accomplissement des œuvres qui y sont. Moi, je le dis même là, pendant que je suis en train d'exhorter, là, je le dis. Dans Marc 16, 20, c'est écrit quoi dans Marc 16, 20? On va lire Marc 16, 20.
Marc 16, verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient.
Voilà. Donc moi je le lui dis, Seigneur, nous croyons en ta parole. Mais à un moment donné, les gens sont en train de nous dire que nous sommes manipulés. Nous sommes religieux, nous avons fait un choix et notre cerveau ne réfléchit plus. C'est tout. Mais dément cela, Seigneur. Dément cela. Montre que ce qui est écrit est vrai en confirmant. Voilà, nous allons prier pour ça. Seigneur, nous venons prier que tu nous pardonnes s'il y a quelque chose qui empêche que ta gloire se manifeste à cause de nous. Pardonne-nous, purifie-nous, mais Seigneur, nous ne voulons pas nous contenter de lire la parole et de la prêcher sans confirmation. Dans Marc 16, 20, c'est écrit que tu confirmais. C'est vrai que beaucoup de nos amis, beaucoup de nos frères ont utilisé tes miracles pour s'enrichir et faire des bêtises. Mais Seigneur, il y a aussi des justes. Il y a aussi des gens qui t'aiment pour toi-même, sans intérêt. Seigneur, nous venons prier qu'il y ait une différence entre ces justes-là et les escrocs, qu'il y ait une différence, Seigneur. Qu'à nouveau, Seigneur, ces miracles s'accomplissent. Qu'il y ait une continuité, pas seulement dans les Écritures, mais une continuité dans les œuvres, dans tes œuvres, Seigneur. Voilà notre prière ce soir. Combien de fois, Seigneur, nous aussi, nous avons eu l'impression que la droite du Très-Haut n'est plus la même, Seigneur. Combien de fois? Avec tout ce qu'on voit comme calomnie qu'on fait sur toi par des faux serviteurs, ils te présentent comme l'argent, comme le Dieu de l'argent. Seigneur, suscite ceux qui vont démontrer le contraire et soutiens-les en confirmant la parole par des prodiges qui marqueront la continuité, Seigneur, entre la Bible et notre discours. Manifeste-toi, Seigneur. Visite-nous à nouveau, Papa. Si nos cœurs sont l'obstacle, change nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais je voulais quand même dire une chose, c'est que quand on se convertit, en général, on est des bébés spirituels et Dieu, vraiment, comme nous, nos parents se sont occupés de nous, comme nous on s'occupe des bébés, Dieu faisait tout. Malgré nos erreurs parfois de jeunesse spirituelle, chrétienne, on avait l'impression d'être tout le temps protégé, tout le temps bien, tout le temps heureux. Et ça peut faire une souffrance avec la vie de responsable chrétien où on a des obligations. Il y a des gens qui attendent qu'on prêche, il y a des gens qui attendent qu'on chante, qu'on dirige un culte, il y a des gens qui attendent des instructions. Tout ça peut stresser, ça peut stresser. On essuie aussi des critiques. Tout ça ça peut créer un petit dégoût. Du coup, on est souvent tenté de se dire, autrefois c'était mieux. Moi, j'ai eu ce problème-là pendant des mois. Pendant des mois, j'avouais au Seigneur que j'ai l'impression que ma vie de nouveau chrétien était plus belle que celle d'aujourd'hui. Quand j'ai dit j'avouais ça comme étant un péché, comme étant un mauvais comportement de ma part. Parce que Dieu est bon en tout temps. Il ne peut pas être plus bon avant que maintenant, envers nous. J'avouais que dans cette affaire, c'est moi qui vois mal les choses. Mais l'explication est là. C'est que quand on est jeune chrétien, on ne fait pas face aux mêmes charges, à la même opposition et à la même discipline de Dieu pour nous former. Ces trois choses-là, les charges, les oppositions, la discipline de Dieu, nous enlever comme la joie de servir Dieu. En comparaison à autrefois, où on était jeune chrétien, on pouvait se permettre des choses. Vous savez, aujourd'hui, nous, en tant que responsables, avant de parler avec quelqu'un, tu pèses les mots, hein? Parce que tu peux blesser quelqu'un pendant 2 ans. Parce que tu es pasteur, tu as dit telle phrase. Alors la personne est blessée pendant 2 ans. Mais quand on est jeune chrétien, on se permet. Frère, là, toi, tu es orgueilleux. Voilà. Tranquillement, on n'avait pas le poids de l'église sur nous. Quelqu'un va dire, j'ai quitté l'église parce que les gens vont dire, mais c'est un nouveau converti. Mais en tant que pasteur, si on dit les mêmes phrases qu'on disait autrefois quand on était jeune chrétien, ben, ça va créer un volcan. Alors, gérer tout ça, ça peut rendre la vie lourde. Et enlever comme le plaisir d'être serviteur de Dieu, d'être chrétien. Qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? C'est qu'on doit changer la façon de vivre. On doit considérer d'autres joies. Quand on a 85 ans, 75 ans, ben on doit considérer d'autres joies, d'autres plaisirs que quand on a 20 ans, 18 ans, où notre plaisir c'est de ne pas louper un match du quartier du samedi. Donc, à 80 ans, 75 ans, 65 ans, on doit trouver d'autres joies. Donc, c'est l'appel à ce que nous trouvions d'autres joies dans la vie chrétienne pour échapper à cette nostalgie qui peut devenir un obstacle. C'est une réalité. D'ailleurs, Jésus l'a dit, hein, les gens, quand ils ont goûté le nouveau vin, ils disent le vieux était meilleur. Voilà. On a toujours la nostalgie du passé en croyant, en voyant comme si c'était meilleur. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas les mêmes responsabilités. Et quand on forme un enfant à l'école maternelle, il n'y a pas la même exigence qu'un étudiant en médecine. Un étudiant en médecine, on le forme avec une exigence forte parce qu'on sait que la vie de certaines personnes sera entre ses mains. Ce n'est pas la même chose. Donc maintenant, à un certain niveau de notre marche, Dieu est beaucoup plus sévère dans notre formation parce qu'on va avoir des responsabilités. Et ça peut enlever comme une certaine joie de vivre. Où, vous savez, avant, quand on venait au culte, il y avait une chorale qui chantait. Nous, on était touchés bien parce que c'est les autres qui chantent. Toi, tu viens consommateur, tu es bien. Et quand on sortait, la sœur Intel, sa voix, non. Mais la sœur Germaine a voulu tenter, mais ça n'a pas marché quand elle a fait. Voilà. C'était notre... Vous êtes là, des bébés spirituels. Vous êtes... Tous ces commentaires-là, c'est permis. Vous êtes à l'aise. Et il n'y a même pas un démon qui vient te fermer la gorge pendant la nuit, t'étouffer. Tu es protégé. Donc, on se permettait des écarts comme ça. Mais on est toujours bien. Mais quand tu commences à grandir, chaque écart, ça appelle à une contre-attaque du monde des ténèbres. Et donc, du coup, on devient prudent. Et on te pardonne moins par les humains parce que tu es responsable, tu es diacre, tu es pasteur. Dès que tu dis une phrase, ah voilà. C'est amplifié. Et du coup, tout ça, ça peut rendre la vie triste. Parce que il y a comme un excès de prudence. Et voilà. Donc, je le dis, parce que moi, pendant un certain nombre de mois, j'ai cherché l'origine de la tristesse en moi. Comment j'ai su cette tristesse? Par la nostalgie. La nostalgie m'a appris que j'avais un problème. Que je n'avais plus beaucoup de joie de servir Dieu, et tout en le servant toujours d'une manière déterminée, mais pas avec le même plaisir. Mais c'est dû à quoi? Ces trois choses que je viens de citer, entre autres, après il peut y avoir autre chose. Mais c'est dû à ça. Alors, dans tout ça, apprenons à vivre autrement et à tirer de la joie et du plaisir autrement. Voilà. Puisque on a changé de dimension, on a changé de position, de statut, eh bien, on doit aussi nous adapter dans notre façon de tirer de la joie du Seigneur. Voilà, c'est important, peut-être que ça peut aider d'autres personnes. Oui, question?
Oui, il y a une question Internet, je pense que tu as déjà répondu en partie. Bonsoir, au fur et à mesure de notre cheminement avec le Seigneur, peut-on penser que nous aurons de plus en plus d'épreuves que nous n'aurons pas pu supporter avant?
Oui, oui, voilà, c'est ça. Donc c'est, Dieu nous construit, en même temps, il permet des épreuves qu'on n'aurait pas pu supporter avant, c'est ça. Et ça peut faire comme si, bon, la vie n'est plus agréable. C'est faux. C'est que nous, on n'a pas saisi comment s'adapter. Il faudrait que nous demandions au Saint-Esprit de nous adapter à notre vie de responsable d'aujourd'hui. Oui.
Oui, ma question est par rapport à la prière qu'on vient de faire tout à l'heure. Demander au Seigneur, à Dieu de se manifester comme il avait fait dans le passé en faisant des miracles. Et moi, la question que je me pose, est-ce que si on demande à Dieu de faire des miracles comme dans le passé, est-ce que c'est pour nous, chrétiens, qui avons cru, ou c'est pour ceux qui n'ont pas cru, pour que eux, ils puissent voir aussi cette gloire se manifester? Parce que, comme vous l'avez mentionné dans la discussion, certaines personnes mentionnent que la Bible n'est pas vraie, avec leurs sources tirées à côté, venant de leur côté. Moi, je me dis, quand le diable a tenté Jésus dans Matthieu 4, en lui demandant de sauter, il a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Alors moi, quand je vais demander un miracle pour montrer à un païen que voilà, ce que la Bible dit dans le passé est juste, ce serait le mettre à l'épreuve, moi, en tant que chrétien, parce que j'ai déjà cru à cette parole, qui ne croit pas, c'est pas un miracle qui va le faire changer d'avis. Parce que moi, j'ai déjà cru à cette parole et je sais que la parole est vérité et l'Esprit agira quel que soit ce que lui pense. Parce que la parole de Dieu reste toujours la vérité.
Oui, mon point de vue. Mais là, qu'est-ce qu'on doit faire?
Moi, je prie simplement que le Seigneur, s'il veut se manifester en faisant d'autres miracles comme dans le passé, c'est son choix. Mais je n'ai pas à prier pour lui dire, Seigneur, manifeste-toi comme tu le faisais dans le passé, au temps d'Égypte, en séparant les eaux en deux ou parce que c'est pour le monde ou c'est pour moi?
Non, on a bien dit que nous on croyait, mais on veut que cette parole se confirme. La parole, que ce ne soit pas juste des écrits, que ça devienne réalité.
Et moi je crois déjà.
Oui, mais ça c'est toi. Mais nous on veut voir que cette parole-là en laquelle nous croyons, ça devienne réalité.
Pour ceux qui ne croient pas?
Pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, si j'ai ma jambe cassée, je veux que ma jambe se redresse. Qu'il y ait un miracle, ma jambe se redresse.
Ah oui.
Voilà.
Et si ça ne se redresse pas, je dis aujourd'hui.
Je continue à croire, mais j'aimerais bien que ça se guérisse miraculeusement.
Comme l'apôtre Paul avait dit à l'autre, le monsieur qui était devant. Oula. Pour rentrer dans le tabernacle, je n'ai rien à te donner.
Voilà. Je veux entrer dans une famille qui a un enfant qui est cette position-là. Dire notre Dieu est réel, il vous aime, il va sauver. Lève-toi et marche. Il voit la réalité de Dieu. Voilà. C'est pas pour nous. Nous on croit déjà, mais lui, Dieu a dit que sa parole va s'accomplir. Mais que ça s'accomplisse. C'est ce qu'on lui demande.
Mais des fois, elle s'accomplisse aussi parce que ce que vous dites là, ça change. Puisque moi, dans ma vie, je sais que ce que vous avez dit, ce n'est pas un grand miracle. Mais je sais que le miracle n'est pas simplement ce qui est visible. Un miracle peut être un changement dans la vie de quelqu'un.
Mais oui, mais toi, tu es notre miracle.
Oui.
Tu venais ici pour nous boxer, maintenant.
Non.
Ah non, c'était pas au niveau de boxer. Bon, d'accord. Voilà. Maintenant, oui, on est content. Maintenant, on veut maintenant voir aussi d'autres une maman qui est en train de pleurer la leucémie qu'on vient de prononcer par rapport à sa fille. Que nous, on prie pour cette fille-là, la leucémie s'en aille. Que cette maman soit dans la joie et glorifie Dieu. Voilà. C'est ce qu'on veut vivre aussi. Comme il a fait vivre ça avec les anciens. Voilà, c'est ça. Notre génération aussi doit vivre ça parce que sa parole doit être annoncée à chaque génération. Voilà. C'est dans ce... Mais après, il y a des passages, hein, ce que des gens ont lu, le monsieur réclame ça. Mais dans Actes des Apôtres, ils ont réclamé ça aussi. Au chapitre 4, ils ont dit, Seigneur, le chant qu'on chante, manifeste-toi, donne-nous de l'assurance, étends ta main qui se produise. Les apôtres, ils ont prié aussi comme ça. Fais ça pour que les gens te respectent quand même. Voilà. C'est ça, quoi. Qu'il y ait un lien entre ce qui est dit et ce qui se voit, quoi. Voilà.
D'accord.
Il n'y a pas de problème pour ça. Ok, nous passons au psaume 78.
Psaume 78. Cantique d'Azaph. Pardon. Mon peuple, écoute mes instructions. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle soit connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que, devenus grands, ils en parlent à leurs enfants, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu, et qu'ils observent ses commandements, afin qu'ils ne soient pas, comme leurs pères, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme, et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, tournèrent le dos le jour du combat. Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu, et ils refusèrent de marcher selon sa loi. Ils mirent en oubli ses œuvres, ses merveilles qu'il leur avait fait voir. Devant leur père, il avait fait des prodiges, au pays d'Égypte, dans les campagnes de Tsoan. Il fendit la mer et leur ouvrit un passage. Il fit dresser les eaux comme une muraille. Il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Il fendit des rochers dans le désert, et il donna à boire comme des flots abondants. Du rocher, il fit jaillir des sources, et couler des eaux comme des fleuves. Mais ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur, en demandant de la nourriture selon leurs désirs. Ils parlèrent contre Dieu, ils dirent, « Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert ?» Voici, il a frappé le rocher, et des eaux ont coulé, et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain, ou fournir de la viande à son peuple ?» L'Éternel entendit, et il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob, et la colère s'éleva contre Israël. Parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Il commanda aux nuages d'en haut, et il ouvrit les portes des cieux. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna le blé du ciel. Ils mangèrent tous le pain des grands. Il leur envoya de la nourriture à satiété. Il fit souffler dans les cieux le vent d'Orient, et il amena par sa puissance le vent du midi. Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière, et comme le sable des mers, les oiseaux ailés. Il les fit tomber au milieu de leur camp, tout autour de leur demeure. Ils mangèrent et se rassasièrent abondamment. Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré.
Voilà. Bien-aimés, on s'arrête un peu là, puisque c'est long, hein, le psaume 78, je ne savais pas, avant que je prépare ça. Voilà. Le psaume 78, à l'inverse de ce qu'on vient de dire dans le psaume 77, c'est la nostalgie de l'homme. Maintenant, dans le psaume 78, c'est Dieu qui rappelle le passé à l'homme. Il dit, ne fais pas les mêmes erreurs du passé, comme vos pères, comme les gens qui ont vu mes prodiges, mes miracles, mais qui n'ont jamais été fidèles. Le psaume, le verset 8 résume tout. Hein, il nous dit, le verset 8, « Afin qu'ils ne fussent pas comme leurs pères, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. » Voilà. Le cœur des gens de l'époque n'était pas ferme. Ils étaient légers. Et le psaume nous dit, donc au départ, il faut enseigner les choses du passé pour que les gens du présent ne tombent pas dans les mêmes erreurs. Bien-aimés, vous voyez l'importance d'enseigner la parole. Il faut que la parole soit enseignée. Chaque jour que les gens s'habituent à Dieu par les Écritures, pour faire en sorte qu'ils prennent les leçons, ils tirent les leçons et ne tombent pas dans les mêmes erreurs. Et c'est là que Dieu, maintenant, lui, commence à rappeler, à chaque fois, lui, il faisait des exploits. Les gens, parfois, venaient à lui et ils retombaient dans l'infidélité. Le verset 8 résume tout. Le cœur n'était pas ferme. Bien-aimés, il faut qu'on soit ferme dans notre foi, quitte à en mourir. Mais il faut être ferme. C'est l'instabilité qui éloigne Dieu de nous et qui fait entrer le diable. Donc, c'est tout ce qu'on va lire jusqu'au bout. Le Seigneur est en train de rappeler ce qu'il fait et il satisfait les gens. Mais pendant même leur satisfaction, ils se rébellent encore à Dieu. C'est ce qu'on va voir au verset 30.
Ils n'avaient pas satisfait leurs désirs. Ils avaient encore leur nourriture dans la bouche lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux. Il frappa de mort les plus vigoureux. Il abattit les jeunes hommes d'Israël. Malgré tout cela, ils continuèrent à pécher. Ils ne crurent point à ses prodiges. Il consuma leurs jours par la vanité et leurs années par une fin soudaine. Quand il les frappait de mort, il le cherchait. Il revenait et se tournait vers Dieu. Il se souvenait que Dieu était leur rocher, que le Dieu très haut était leur libérateur. Mais il le trompait de la bouche et il lui mentait de la langue. leur cœur n'était pas ferme envers lui.
Voilà, on revient sur ce terme-là, leur cœur n'était pas ferme. Ils venaient pleurer, Seigneur, pardon, on revient. Mais au fond, ils n'étaient pas fermes, ils mentaient de la langue. Voilà, c'est ça le problème. Au fait, c'est comme si le psaume 78 est une réponse au psaume 77. Ah bon, vous voulez les prodiges, vous voulez les choses, mais regardez tout ce qui s'est passé autrefois. À chaque fois, j'ai fait, mais vous n'avez pas été fidèles. Mais pensez-y, voilà, nous continuons.
Et il n'était pas fidèle à son alliance. Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Il se souvient qu'il n'était que chair, un souffle qui s'en va et ne revient pas. Que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert. Que de fois ils l'irritèrent dans la solitude. Ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Ils ne se souvinrent pas de sa puissance, du jour où il les délivra de l'ennemi, des miracles qu'il accomplit en Égypte, et de ses prodiges dans les campagnes de Tsoan. Il changea leurs fleuves en sang, et ils ne purent en boire les eaux. Il envoya contre eux des mouches venimeuses qui les dévorèrent, et des grenouilles qui les détruisirent. Il livra leur récolte aux sauterelles, le produit de leur travail aux sauterelles. Il fit périr leurs vignes par la grêle, et leurs sycomores par la gelée. Il abandonna leur bétail à la grêle et leurs troupeaux au feu du ciel. Il lança contre eux son ardente colère, la fureur, la rage et la détresse, une troupe de messagers de malheur. Il donna libre cours à sa colère, il ne sauva pas leur âme de la mort, il livra leur vie à la mortalité. Il frappa tous les premiers-nés en Égypte, les prémices de la force sous les tentes de Cham. Il fit partir son peuple comme des brebis. Il les conduisit comme un troupeau dans le désert. Il les dirigea sûrement pour qu'ils soient sans crainte. Et la mer couvrit leurs ennemis. Il les emmena vers la frontière sainte, vers cette montagne que sa droite a acquise. Il les chassa devant eux, les nations, leur distribua le pays en héritage. Pardon, et fit habiter dans leurs tentes les tribus d'Israël. Mais ils tentèrent le Dieu très haut et se révoltèrent contre lui. Et ils n'observèrent point ses ordonnances. Ils s'éloignèrent et furent infidèles comme leur père. Ils tournèrent comme un arc trompeur. Ils l'irritèrent par leur haut lieu et ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles. Dieu entendit et il fut irrité. Il repoussa fortement Israël. Il abandonna la demeure de Silo, la tente où il habitait parmi les hommes. Il livra sa gloire à la captivité et sa majesté entre les mains de l'ennemi. Il mit son peuple à la merci du glaive et il s'indigna contre son héritage. Le feu dévora ses jeunes hommes et ses vierges ne furent pas célébrées. Ses sacrificateurs tombèrent par l'épée. Et ses veuves ne pleurèrent pas. Le Seigneur s'éveilla comme celui qui a dormi, comme un héros qu'a subjugué le vent. Il frappa ses adversaires en fuite. Il les couvrit d'un opprobre éternel. Cependant, il rejeta la tente de Joseph, et il ne choisit point la tribu d'Éphraïm. Il préféra la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aimait, et il bâtit son sanctuaire comme les lieux élevés, comme la terre qu'il a fondée pour toujours. Il choisit David, son serviteur, et il le tira des bergeries. Il le prit derrière les brebis qui allaitaient, pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre, et les conduisit avec des mains intelligentes.
Amen, amen. Dieu aime beaucoup David. Finalement, ce psaume nous raconte l'histoire depuis la sortie d'Égypte, comment il y a eu des cycles de bénédiction, traîtrise, infidélité de la part du peuple, sanctions, ils sont frappés, Le même Dieu a encore pitié. Il se lève, il les sauve. Il les met en bonne position. Infidélité encore. Donc dès que l'homme est confortable, est dans le confort, il a tendance à entrer dans l'infidélité. C'est ça la réalité. C'est la difficulté que Dieu a avec nous, c'est que l'aisance et le confort nous éloignent de lui. Du coup, il doit mélanger gloire et épreuve s'il veut nous garder. C'est ça quoi. Sans les épreuves, on serait perdu. Ça sert à cela. On t'a volé quelque chose. Ben, c'est une épreuve. Ça nous sert. Ça sert à nous maintenir dans la foi, près de Dieu, dans une position d'humilité. Et dans cet enchaînement de cycles, ça finit par quoi? Il réduit la tribu. En fait, il choisit une tribu, voilà, à travers laquelle il va sortir le Messie. Parce que quand on parle de David, en réalité, on veut parler du Messie à venir. Et finalement, dans cette tribu-là, il se trouve un berger, David, qui est l'image du Messie. Donc, on nous montre, en quelque sorte, dans le psaume 78, que les humains étant tout le temps infidèles, Dieu a fini par se contenter que d'un seul humain, en réalité, son Fils, qu'il allait envoyer pour être l'humain qui se comporte vraiment selon Dieu. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. David le représente en quelque sorte. C'est Jésus qui est le fils bien-aimé. L'homme, même Pilate, quand Jésus avançait, il a dit, voici l'homme. Pour nos vieux, nos anciens, quand j'ai dit nos anciens, des gens qui nous sont précédés depuis des siècles, ils ont considéré dans la phrase de Pilate une prophétie, une parole divine. Voici le véritable homme. Quand Pilate dit, voici l'homme, ecce homo, voici l'homme, pour eux, c'est l'Esprit Saint qui parlait pour dire, voici l'homme véritable, le seul. Donc Dieu, n'ayant pu trouver satisfaction auprès des humains en groupe, a fini par trouver satisfaction qu'auprès d'un homme. Ici, c'est dit David, mais en réalité, c'est le Messie, puisque David n'était pas non plus parfait. C'est Jésus, le fils de David. Voilà, nous allons prier, bien-aimés, que Dieu nous aide à être ferme dans notre position, ferme. Quand tu suis Dieu, tu dois être ferme par rapport à la parole. Demander son aide pour être ferme. Prendre sa parole au sérieux. La méditer chaque jour pour la mettre en pratique au nom de Jésus. Seigneur, nous venons prier que nous ne soyons pas de ceux qui te déçoivent par des infidélités, par des éloignements dus au confort, Seigneur. Nous voulons être fermes dans notre foi. Ferme dans la considération de la parole, ferme dans la considération de la vérité. Aide-nous, Papa, à honorer notre Seigneur Jésus qui est mort à la croix pour nous, à travers notre détermination à te servir, notre détermination à serrer la parole dans nos cœurs. Soutiens-nous, Seigneur. Nous venons prier, Seigneur, afin que vraiment, nous nous inclinions devant toi pour tout. Comme c'est dit dans le psaume 77 quelque part, même quand les gens sont en colère, ils s'inclinent dans le psaume 76, Seigneur, au verset 8. C'est quel verset? Voilà, 11, l'homme te célèbre même dans sa fureur quand tu te revêts de ton de tout ton courroux. Seigneur, même dans notre colère, parfois dans notre déprime, parfois que nous puissions, pas parfois, que nous puissions te voir dans la gloire et que nous nous inclinions malgré tout, même si on est un peu mécontent, mais que la notion de ta grandeur, de ta toute-puissance, de ta que tu es vérité, puisse être supérieure à nos déboires. De sorte que comme Ézéchiel, il était irrité dans son esprit, mais il allait quand même te servir parce qu'il savait que tu avais raison, même si ça n'allait pas avec ce que lui aurait aimé, Seigneur. Que nous puissions nous incliner, que nous soyons fermes par rapport à la parole. Seigneur, sois vainqueur de la nostalgie en nous, que nous puissions aimer le présent avec toi. Découvrir dans le présent toutes sortes de joies et de plaisirs. Avec toi, Jésus. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Oui, question.
Oui, bonsoir. Il y a une question internet. L'internaute demande, c'est le psaume 68, je crois, au verset 67. Pourquoi Dieu a choisi la tribu d'Éphraïm, je crois, de Juda, plutôt que d'Éphraïm?
Pourquoi il a choisi
la tribu de Juda?
Pourquoi il a choisi la tribu de Juda, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il a choisi, c'est son choix. Ok, c'est bon. Ok, que Dieu nous bénisse. À mardi prochain.